Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. Et il est l'heure de zoomer, de décrypter l'info du jour avec nos grandes voix. Ce soir, toujours à distance et autour de vous, Virginie Salmen du service Société d'Europe 1, Emmanuel Duteil, chef du service Économie d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et depuis Barcelone, ce soir, notre correspondant en Espagne, Henri de la Guérie. Bonsoir les grandes voix. Bonsoir,
bonsoir
Henri de la Guérie de l'Espagne. Bienvenue.
Bonsoir.
Évidemment, on a tous écouté attentivement hier soir Emmanuel Macron. On l'a débriefé en direct jusqu'à 21h. Vous étiez à mes côtés. Lendemain d'allocution présidentielle, Mickaël Darmon, on va commencer ensemble, si vous le voulez bien, parce que beaucoup de choses ont été dites et forcément beaucoup de réactions aujourd'hui, après notamment l'annonce du déconfinement en premier lieu des écoles et donc nos enfants de nouveau exposés.
Oui, et il se confirme d'ailleurs avec après les différentes conversations dans l'entourage présidentiel qu'il s'agit bien d'un choix politique porté, assumé, présenté en premier lieu par le président de la République qui voulait d'emblée donner un signal justement vis-à-vis de l'inégalités que peuvent engendrer le numérique hein, tant dans les quartiers populaires que dans les zones rurales, parce qu'il a voulu on l'a compris organiser toute son intervention également autour de ce signal envoyé aux classes les plus défavorisées, aux précaires, et allant vers une refondation politique telle qu'il a expliqué à la fin de son propos. Donc on a compris immédiatement, d'ailleurs dès hier soir après l'intervention sur notre antenne avec vous, on a compris tout de suite le désarroi que cela, et la surprise que cela pouvait créer. Ça n'a pas arrêté
tant du côté des parents d'élèves que du côté des enseignants hein.
De tout le monde, manifestement. Enfin, il y a déjà des études, mais Virginie Salmen en parlera sûrement plus précisément. En tout cas, on a bien vu qu'il y a tout de suite eu une surprise et une forme d'incompréhension dans cette démarche. Mais il est bien clair que c'était donc une volonté du président de la République. Et puis, dans le deuxième jour, dans le lendemain des interventions présidentielles, eh bien, le scénario, le rituel se confirme. Vous avez l'ensemble du gouvernement ou des ministres concernés qui tentent d'expliciter, d'éclaircir, de préciser la parole présidentielle de
voir
la veille,
voire de tempérer,
et c'est pas toujours d'ailleurs réussi, et ça ne procure pas toujours justement cette impression de clarification.
Alors on sait qu'Édouard Philippe devrait s'exprimer, il l'a dit bien en amont du 11 mai pour donner un plan précis et complet sur ce début de déconfinement. Voilà, exactement. Tout ça, on en reparlera également avec Sibeth Ndiaye, invitée porte-parole du gouvernement, invitée à 19h10. Et puis avec vous, les auditeurs, jusqu'à 19h30, elle répondra à un maximum de questions. C'est vrai, tiens, on peut aller plus loin peut-être avec vous sur ce sujet, Virginie Salmen, parce que les enfants, les gestes barrières, les masques, si on parle des masques, parce qu'on se dit que peut-être demain, tout le monde portera un masque, comment il marche, et puis comment ça filtre, et puis comment ces petits de 3 ans vont pouvoir en porter. A priori, ils n'en porteront
pas, soyons clairs. Oui, c'est compliqué, effectivement. Vous avez raison, on n'a pas encore de modèle de masque pour les enfants de maternelle. D'ailleurs, ce que disait Mickaël est exact, parce que les enseignants se demandent déjà combien d'enfants, par exemple, de maternelle ils pourront réunir. Et pour l'instant, ils sont plutôt sur 5 maximum. Donc 5, c'est quand même pas un retour à l'école massif. Parce qu'au-delà de 5, peut-être 6, 7 éventuellement, dans une classe, les gestes barrières sont totalement inapplicables déjà. Et vous imaginez des petites sections, moyennes section, ça paraît très compliqué. Effectivement, pour l'instant, on n'a pas encore de modèle de masque plus petit à notre connaissance, en tout cas en fabrication en France. Donc c'est effectivement un peu compliqué. Et d'ailleurs, ces masques qu'on va tous porter très bientôt, c'est assez intéressant de voir comment ils filtrent, parce que vous vous imaginez peut-être comme moi qu'ils filtrent à la manière d'un filtre, disons, d'aspirateur. C'est-à-dire que vous aspirez de l'air et qu'ils rentrent ou pas, suivant qu'ils sont suffisamment tissés fins. Il bloque la toute petite particule virale ou pas, comme un tamis finalement. Mais finalement, c'est pas du tout ça. C'est ce que nous explique un physicien qui s'appelle Jean-Michel Courty, qui nous raconte que cette petite molécule vraiment qui fait une particule qui est 700 fois plus petite qu'un grain de sable. Eh bien, finalement, si on voulait vraiment la bloquer, il faudrait porter un tissu qui nous empêcherait de respirer. Donc c'est pas possible.
Oui, c'est ça. Je crois que c'est 4 fois plus épais que la réalité. 3 ou 4 fois plus.
Voilà, il faudrait un masque de 5 à 6 cm d'épaisseur à peu près, ce qui est inenvisageable. On n'arriverait pas à respirer. respirer dessous. Donc il faut trouver d'autres façons de filtrer, de bloquer cette particule. Et ce qu'on trouve par exemple dans les masques FFP2, mais aussi dans ceux qu'on est en train de fabriquer en ce moment en France, c'est plusieurs couches, dont une qui est, vous savez, on a entendu ça, c'est en non-tissé. Donc c'est pas du tissu, c'est pas avec une trame. C'est comme, si vous voulez, vous vous promenez dans une forêt, et cette forêt, elle est très dense. Donc si vous vous promenez de gauche à droite, à un moment, vous allez percuter un arbre. Et bien là, cette particule, elle va percuter de la même manière une petite fibre de ce tissu, de cette... c'est plutôt du polyester, par exemple. Et elle va pas être arrêtée, elle va se coller dessus. Donc elle rentrera pas dans votre bouche ou dans votre gorge.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, on a beau porter des masques aujourd'hui, quels qu'ils soient, et très souvent qui ne sont pas des FFP2, ça ne sert strictement à rien. Ou en tout cas, ça ne nous protège pas, c'est ça.
Ça ne sert pas à rien, mais il faut qu'il y ait un filtre à l'intérieur de non-tissé, c'est vraiment très important. Et puis le changer évidemment régulièrement pour que ces particules qui sont collées, on s'en débarrasse.
Alors Henri de Léguéry, on vous retrouve évidemment à Barcelone en Espagne. On regarde chez vous particulièrement ce qui se passe, parce que vous avez un tout petit peu d'avance sur nous. Vous êtes dans un peut-être début de reprise de l'activité économique en marchant sur des œufs, mais on y va doucement.
Oui, effectivement, mais c'est vrai que dans cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément du côté espagnol qu'on va pouvoir savoir ce qui se fait en France, parce que désormais, on a peut-être, et en lisant la presse espagnole, on a l'impression que la France va désormais un tout petit peu plus vite, c'est un tout petit peu plus vers où elle va, alors que c'est vrai qu'en Espagne, depuis entre hier et aujourd'hui, une partie de l'activité économique a repris les chantiers, la construction, et on a retrouvé ici, notamment à Barcelone, dans mon quartier, j'ai entendu des bruits que j'avais oubliés, le bruit des grues, des chantiers, et quelques véhicules, donc on a le sentiment d'un tout début de retour à une espèce de retour anormal, mais à part ça on ne sait rien, on ne sait pas du tout vers où on va. Il y a cet état d'urgence et donc ce confinement complet jusqu'au 26 avril pour le moment, qui devrait être prolongé jusqu'à la mi-mai, mais c'est vrai qu'il n'y a rien sur les écoles, on ne sait pas vraiment où on va, et donc c'est finalement peut-être deux stratégies, et j'avais le sentiment en lisant la presse espagnole ce matin qu'on était un tout petit peu envieux de la France et de ce discours d'Emmanuel Macron qui hier fixe une espèce de cap, et ce cap ici on ne l'a pas, on ne sait pas vraiment, on n'a pas vraiment d'horizon pour le moment.
Alors nous, on n'a pas d'horizon précis pour l'instant, mais effectivement, on a des rendez-vous a priori. Emmanuel Dutheil, on regarde aussi sur le plan économique des choses, parce que bien sûr, en tout cas vous allez m'éclairer, peut-être que le risque économique a été pris en compte très clairement hier dans le discours aussi d'Emmanuel Macron, parce qu'on les voit, les chiffres qui s'empilent et qui font peur.
Oui, alors je peux vous dire que les ordinateurs ont tourné toute cette nuit du côté de Bercy, parce qu'avec ce qui a été annoncé hier soir, déjà le prolongement du confinement, fallait revoir les pertes que ça allait engendrer, parce que plus il y a des semaines de confinement, plus l'activité économique est en partie à l'arrêt. Donc on a des chiffres tout simplement cataclysmiques, on va avoir une baisse du PIB. Le PIB c'est quoi? C'est la somme des richesses que l'on crée en une année en France, et bien on va avoir une baisse de 8%. Jusque-là, on pensait que c'était 6%, c'était déjà historique, et bing, allez, on reprend 2 points de plus. On va également avoir un déficit public qui va littéralement s'envoler, puisqu'on va arriver à 9% de déficit public. Alors là encore, c'est des chiffres qui sont stratosphériques. Pourquoi le déficit partant? C'est vrai qu'on l'a finalement assez peu expliqué, même si Bruno Le Maire le dit à chaque interview. Comment on paye toutes ces dépenses là qu'on annonce? Eh ben, on s'endette sur les marchés. Comme si vous, Nathalie, ou nos auditeurs, vous aviez plus de sous sur votre compte en banque et que vous faisiez un prêt à la consommation pour essayer de payer vos dépenses à venir. Ben, c'est exactement ce qu'on fait. Mais vous savez très bien que si vous aviez dû faire ça, Nathalie, ou si nos auditeurs devaient le faire, à un moment, faut payer. Bon, là, on nous a pas encore dit comment on allait faire. Pour le moment, on dépense. Et on dépense pourquoi? Eh bien, on dépense pour renforcer les mesures qui avaient déjà été annoncées. Vous savez, ce fameux fonds de solidarité pour les petites entreprises dont on a beaucoup parlé. Eh bien, il est dopé. On y intègre plus d'entreprises que ce qui était le cas jusque-là. En tout cas, plus de métiers, plus de fonctions. Et puis, on va également donner un petit peu plus d'argent que prévu. Il faut voir qu'on en est à 7 milliards d'euros de dépenses.
Donc, il a été multiplié par 7, c'est ça, Emmanuel.
Voilà, exactement. C'est pareil pour le chômage partiel. Aujourd'hui, un décret devait sortir pour dire que de nouvelles professions allaient entrer. Par exemple, les VRP. Nous allions également avoir les personnels navigants qui maintenant vont pouvoir bénéficier du chômage partiel. Et puis, là encore, le confinement va durer plus longtemps. Et donc, il va falloir payer plus longtemps. 24 milliards d'euros la facture. C'est 4 milliards d'euros de plus qui avaient été annoncés vendredi dernier. Vous entendez bien, vendredi 20 milliards, mardi soir, allez, 24 milliards. Ouais. Et à tout ça s'ajoutent également d'autres mesures surprises Et je crois ne pas dévoiler de secret, je pense que Mickaël Darmon pourra peut-être confirmer qu'à Bercy, ils ont quasiment appris 10 minutes avant qu'ils allaient devoir trouver des sous en plus. Pour faire quoi? Eh bien, cette fois pour cette aide qui a été annoncée pour les ménages modestes et puis également cette aide qui a été annoncée pour les étudiants précaires. Mais vous verrez que ce matin, tous les ministres qui se sont exprimés, pas un seul était capable de dire concrètement à quoi ça allait ressembler. C'est quand même le signe d'une mesure qui n'était pas tout à fait préparée,
ouais.
Mais elle
ni
va
quand,
exister, rassurons nos auditeurs.
Ouais, mais ni quand,
rassurons
combien,
nos
on
auditeurs
pas...
qui sont concernés, ça va arriver, ouais. Il faut qu'on ait maintenant un petit peu plus de détails.
Bien sûr. Mickaël Darmon, on se retrouve dans un instant. On y revient, oui. Ces aides. Bien et sûr. Puis on refait le tour, évidemment, avec vous, les grandes voix. On en a ô combien besoin. Tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous, Nathalie Lévy et à distance, Virginie Salmen du service Société d'Europe 1, Emmanuel Duteil, chef du service Économie d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique. Et depuis Barcelone, ce soir en Espagne, notre correspondant Henri Blaguéry.
Oui, on se retrouve, Mickaël Darmon. On va reprendre un petit peu avec vous sur cette aide, effectivement, annoncée hier soir, cette aide exceptionnelle aux foyers et aux étudiants les plus modestes. Quand, combien, aucun élément n'a été fourni hier soir par Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, au sujet de la préparation de cette allocution d'Emmanuel Macron, est-ce que vous avez un peu plus de coulisses aussi ce soir? Parce que beaucoup de choses ont été dites, et notamment que dans les dernières minutes, il aurait effectivement actionné des choses qui n'étaient absolument pas prévues.
Oui, en l'occurrence, Emmanuel vient de le dire très justement. Les services de Bercy ont été prévenus quelques minutes avant donc l'allocution présidentielle. Et d'ailleurs, je crois même comprendre que c'est surtout via Matignon qu'on leur a dit, voilà, attendez-vous à savoir et à comprendre quelque chose qui va vous concerner. Je crois que du côté également de l'éducation nationale, on n'était pas tout à fait encore certain de ce qui allait être annoncé. Il faut savoir que ça n'est pas nouveau. Hein. Souvenez-vous, le 10 décembre 2018, ouais. Lorsque le président de la République a fait son discours aussi pour distribuer beaucoup également d'aides d'urgence en pleine crise des Gilets jaunes. Mais cette fois-ci, c'était Muriel Pénicaud qui avait... et Bercy également, mais surtout elle qui avait pris en pleine figure hein, devant la télévision les décisions présidentielles. Et on s'en souvient que le lendemain, elle avait été même incapable d'expliquer dans un média comment ça allait se décliner. Et elle avait même d'ailleurs, les jours d'après, annulé tous ses rendez-vous médiatiques parce qu'elle ne pouvait pas expliquer. Et donc, il y a un peu cette habitude maintenant, je dirais même cette résignation de la part de pas mal de ministres qui, et non des moindres, qui savent que lorsqu'une décision, un plan se prépare, et bien ils se préparent à l'Élysée. En très petit comité, ils ont assez peu d'informations et souvent mais ils découvrent au tout dernier moment quand ça n'est pas directement au moment où le président s'exprime.
Alors un dernier mot, il a évidemment été dit tout et son contraire hein, sur cette allocution présidentielle. On partait de l'errance du président de la République jusqu'à ces jours-ci. Aujourd'hui on dit qu'il fait de la godille pour ménager l'opinion. Est-ce qu'on en est là dans cette manière de tempérer? Est-ce que c'est comme ça aujourd'hui, Mickaël Darmon, que vous faites une lecture de l'allocution d'hier soir? Et globalement, est-ce que c'est ce que la presse dit?
Écoutez, moi, ce qui m'a frappé hier, c'est d'abord à quel point, effectivement, c'était assez rare, hein, quand on connaît quand même un petit peu maintenant le personnage du président de la République, de l'entendre dire je dois moi-même changer, je ne sais pas. Macron qui dit je ne sais pas, c'est quand même rare sur le marché, mais il a quand même effectivement voulu faire montre de cette humilité parce qu'il a bien compris que l'opinion était très en colère vis-à-vis de ce qui s'était passé au début de la pandémie. Et puis il y a toujours cette projection sur le moment, sur le jour d'après, ouais, sur la période d'après. Et là il est allé encore un petit peu plus loin. Il a lancé l'acte 3 de son quinquennat. Il a parlé de la refondation. On ne parle plus de transformation. On ne parle plus des grandes réformes systémiques, en particulier celle des retraites. On parle maintenant de la refondation avec un nouveau pacte, un nouvel équilibre auquel il veut associer les forces politiques et sur lesquelles il reviendra. Alors, nous en parler. Donc on comprend bien qu'il y a dans sa tête un nouveau projet qui consiste à justement pouvoir sortir et pouvoir recréer une matrice politique autour de lui, parce que bien évidemment tout le monde a en tête à l'Élysée le fait que 2022 ça approche hein, en temps politique, ouais. Ça n'est pas, c'est vraiment tout proche, et on sait très bien maintenant maintenant que, eh bien, une fois que toutes les paroles seront déconfinées, hein, parlementaires, de l'opinion, des Français, eh bien, ça va continuer jusqu'à la fin du quinquennat, cette affaire.
Ah oui. Alors, on retourne en Espagne, vous rejoindre Henri de la Guérie, parce que vous nous disiez tout à l'heure eh bien que vous êtes presque dubitatif en voyant qu'en France, on a un semblant de feuille de route, alors que vous, même si l'activité reprend sur quelques secteurs, eh bien, vous ne savez pas du tout où vous allez. Et vous êtes d'ailleurs confiné, hein, je crois, avec vos enfants, parce que les enfants non plus en Espagne n'ont pas le droit de sortir. Du côté économique, le Front monétaire international annonce une récession de 8% du PIB pour l'Espagne. Là, pour le coup, on est à peu près au même niveau.
C'est effectivement, c'est des chiffres très durs et finalement, ça rejoint évidemment l'analyse d'Emmanuel qu'on a pu entendre il y a quelques instants sur la France. On parle notamment d'un taux de chômage qui pourrait atteindre d'ici la fin de l'année 21%. C'est absolument énorme. Et pour rebondir un petit peu sur ce début de retour d'activité économique, c'est évident que si les chantiers reprennent, si le gouvernement lâche un peu de lest sur l'activité économique, c'est évidemment pour ces questions-là. Et ici, en Espagne, il n'y a pas que le patronat qui a demandé finalement, qui a fait pression pour qu'il y ait ce retour de l'activité économique. Il y a une partie des syndicats, une partie de la gauche aussi et des gens dans la rue, des gens avec qui j'ai parlé, notamment des ouvriers dans le sud de l'Espagne qui disaient « Oui, c'est un risque de reprendre le boulot. On est inquiet, on n'a pas forcément toutes les protections. » Et en même temps, il faut retravailler parce que ici, il y a vraiment ce souvenir de cette crise économique qui a été mondiale, mais qui en Espagne a été absolument dramatique avec toutes ces expulsions immobilières, ces taux de chômage à près de 25%. Et ce souvenir-là, c'est il y a quelques années seulement, les années 2010-2012. Et donc, on a peur de revivre ça. C'est pour ça aussi qu'on se dit qu'il va falloir reprendre le travail au plus vite. Il y a quand même des très grandes entreprises, et peut-être je peux le souligner ici, qui ont fait un effort particulier, notamment le très grand groupe Inditex, c'est Zara et tout un tas de marques, qui a réussi, grâce au travail aussi des syndicats, à ne mettre personne en chômage partiel, encore pour le mois d'avril. Donc pour le moment, tous les salariés de cette entreprise conservent leur emploi, même si ils ne se rendent pas au travail.
Et c'est toujours bienvenu de le citer quand ça se passe dans ce sens-là. On est à Marseille et Emmanuel Duteil, tendez l'oreille parce que peut-être vous allez avoir des éléments pour éclairer notre invité ce soir. Enfin, notre auditeur. Marseille, depuis Marseille, Christophe nous appelle. Bonsoir Christophe. Vous êtes restaurateur.
Et bonsoir.
Hein. Bonsoir
oui,
à vous.
Tout à fait, ouais.
Bonsoir, merci
Bonsoir.
D'être avec nous ce soir sur Europe 1. Vous êtes restaurateur et j'imagine que ça a été une nuit d'insomnie après les annonces hier soir d'Emmanuel Macron, à savoir que jusqu'à nouvel ordre, pas de reprise.
Ça n'a pas été une nuit d'insomnie suite aux mesures que le président de la République a émis hier soir. On l'avait déjà prévu, il ne faut pas se leurrer. Moi, ce qui m'inquiète, il faut voir trois choses. C'est le court, le moyen et le long terme. Le court terme, c'est effectivement des fonds de roulement qui pourraient être un petit peu indemnisés par l'État, etc., même si ça reste compliqué, pour les restaurants notamment. Le moyen terme, c'est de se dire comment on va continuer à consommer dans les restaurants. Moi, je parle à Marseille, mais je connais bien Paris. Les rotondes, etc., les bistrots, machin. Est-ce que vos serveurs, ils auront des masques et des gants pour bien vous sûr. Servir vos plats? Voilà, ça c'est le moyen terme. Et le long terme, c'est après, qui voudra investir là-dedans? Tout simplement. C'est ça. Il y a une peur.
Je ne sais pas si vous nous entendez.
Oui.
Oui, allez-y, continuez.
Je pense qu'il y a une peur qui est légitime et qui s'inscrit aussi dans l'économie française, quelque part, à laquelle on n'était pas préparé. Forcément, hein, de toute façon, c'est toujours après un accident qu'on dit qu'il fallait avoir des protections.
Oui,
toujours pareil, hein, voilà. Mais voilà. Mais cette peur-là, je pense que, par contre, là, on va s'inscrire dans le long terme. Et ça changera le comportement des gens. Et ça,
bien sûr.
Moi, c'est ce que je disais avec des collègues, je vais vous dire. C'est les vacances d'été. Et ça, je l'ai dit dès le départ.
Et bien entendu, il y a cette échéance avant tout, bien sûr. Alors Christophe, si vous le voulez bien, on va parler avec Emmanuel Duteil. Même si Emmanuel, on a peu d'éléments, voire pas, évidemment, il y a ce fonds de solidarité. Mais c'est vrai qu'il va falloir repenser tout un tas de choses dans la restauration, mais pas seulement dans les cinémas, etc. C'est plus qu'un secteur, là, aujourd'hui, qu'il va falloir repenser.
Non, bien évidemment. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir un fonds spécifique pour le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, du monde du spectacle et du monde du voyage. Parce que là, il faut bien se rendre compte, comme l'expliquait très bien notre auditeur ce soir, que la saison d'été va être extrêmement compliquée. Donc, il va y avoir un fonds. Qu'est-ce qu'il y a dans son? Bien malin que celui qui est capable de répondre pour le moment, puisque ça fait partie des mesures un petit peu surprises d'hier, ou en tout cas qui n'étaient pas totalement finalisées. Ce qui est certain quand même, c'est qu'on parle beaucoup de report de charges pour le moment. Mais quand vous êtes un chef d'entreprise, et j'imagine que notre auditeur pourrait tout à fait le confirmer, quand vous n'avez pas d'argent qui rentre pendant plusieurs mois, même si on vous a reporté des charges, faut bien les payer un moment. Et vous ne pouvez tout simplement pas le faire. Donc ce qui est totalement certain, c'est qu'au moins à court terme, il va y avoir une annulation pure et simple pour le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, des festivals, de la culture au sens large et pour le secteur du voyage. Il va y avoir une annulation des charges qui étaient dues. Donc ça déjà, c'est un petit ballon d'oxygène pour tout ce secteur. Après, il faut effectivement redémarrer. Le chômage partiel va être maintenu pour aider ce secteur à ne pas perdre ses compétences. Parce que là encore, comment vous repartez si vous avez perdu tous vos collaborateurs? Donc le chômage partiel va être maintenu. Après, ce qu'on peut espérer, c'est que quand même cet été, la saison touristique ne soit pas catastrophique en France. Pourquoi? Parce que comme le disait hier soir sur l'antenne d'Europe 1 le patron d'Airbnb, on mise aujourd'hui du côté des professionnels du tourisme pour un tourisme de l'ultra local et avec très peu de gens. Donc peut-être se louer une maison, un mobilhome avec un couple d'amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps pendant ce confinement. Mais même si on aura sûrement moins d'envie de se retrouver dans un restaurant, et est-ce que ces restaurants seront ouverts, on n'en sait rien, mais il est quand même probable, possible, en tout cas au moment où on se parle, d'imaginer qu'on puisse avoir une forme de mini-retour à la normale au cours de l'été. Tout ça avec bien évidemment beaucoup de conditionnels. Mais ça aidera un petit peu ce secteur à repartir. Et la seule certitude, c'est qu'au moment où on va lâcher quand même vraiment les vannes, il y a bien quelque chose qu'on va tous vouloir collectivement faire. Et je pense que nous, les grandes voix, on sera bien contents d'aller se faire un super resto et sûrement plus tous ensemble. Va bien falloir que ça redémarre un moment.
Ouais, évidemment. Alors là, peut-être dans un premier temps, effectivement, avec des tables très espacées et des...
C'est ça.
Et, voilà. Merci en tout cas à Christophe de nous avoir contactés depuis Marseille. Les restaurateurs, l'hôtellerie, tout ce secteur-là, on en parle à 19h30. Vous pouvez nous appeler, poser vos questions. On vous laissera toute la latitude pour le faire. Virginie Salmen, on va conclure avec vous sur deux points. Les tests en EHPAD, on en parlait, ils sont censés être arrivés. Est-ce que vraiment on y est? Et puis on a entendu dire que des boulevards parisiens allaient être transformés en pistes cyclables. Quid en deux?
Alors, d'abord, pour commencer sur les tests d'EHPAD, je voulais quand même vous parler de ce point d'alerte des directeurs d'EHPAD qui ont bien entendu Olivier Véran annoncer le déploiement massif des tests à grande échelle, etc. Pour eux, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel, c'est ce qu'ils disent. Et ils ont eu vent, ils n'ont pas encore eu le protocole d'État, ça c'est pas arrivé jusqu'à leur bureau, mais ils ont eu vent quand même, ils ont eu connaissance des modalités de ces tests. Et public comme privé, ils sont vent debout ces jours-ci parce que ils ont appris que pour les établissements intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui ont quelques cas, quelques décès, 100% des soignants vont être testés, mais 3 résidents seulement. Alors, plus si la situation l'exige, dit ce protocole, mais a priori, 3 résidents, on va considérer que vous avez un groupe de contamination et donc que votre EHPAD est contaminé. Et voilà, on n'aura pas testé tout le monde. Alors, il y a des exceptions. Certaines ARS, agences régionales de santé, font un peu leur sauce, entre guillemets, localement. L'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont décidé de tester 100%, d'être mieux disantes finalement, et de tester 100% des résidents, ce qui les soulage, évidemment. En Ile-de-France, on est en train de tester 120 premiers EHPAD. Vous savez qu'en Ile-de-France, la situation est critique. Hein. Le virus est entré dans 60% des établissements. Donc là, la situation est assez critique. Et on est en train de... On est en train de tester tous les résidents, mais c'est très compliqué évidemment parce que ça prend 20 minutes. Tout le monde ne veut pas se faire entrer un écouvillon tout au fond du nez. Évidemment. C'est très compliqué comme geste.
On n'y est pas encore. Pas de quoi encore être rassuré. Merci beaucoup. Merci les grandes voix, les boulevards transformés. On va y en parler évidemment dans le journal de 19h avec Sébastien Krebs. C'est une possibilité sur laquelle travaille la mairie de Paris. Merci beaucoup les grandes voix. Merci Henri de la Guérie. À demain, sans faute.
À bientôt.